Ma banque a compris que pour moi, chaque euro compte.
Et en ce moment, nous vous proposons un prêt auto très intéressant.
D'accord, et au taux de...
Comment ça, au taux de...
Non, mais vous dites un prêt auto très intéressant. Et à quel taux?
Ah non, je voulais dire un prêt automobile très intéressant.
Pardon, excusez-moi, j'avais pas compris. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant, ce prêt auto?
Et son taux.
À la rentrée, ce sont les bons plans auto de la Banque Postale. Jusqu'au 5 octobre 2013, profitez d'une offre spéciale sur le taux du prêt personnel auto. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639. 15 centimes d'euros TTC la minute.
La Banque Postale.
Banque et citoyenne. Après l'acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale intermédiaire de crédit exclusif du prêteur.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Ce samedi, le 7 septembre, aura lieu le grand feu de Saint-Cloud, donné cette année en l'occasion de Le Nôtre pour le 400e anniversaire de sa naissance. À cette occasion, Franck Ferrand nous propose une émission feu d'artifice aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. J'ai toujours adoré les feux d'artifice, moi c'est comme ça. Et je crois pouvoir dire que tous les grands événements joyeux de l'histoire, et cela depuis des siècles, ont été marqués par de beaux feux d'artifice. Jean-Éric Hougier, le plus grand de nos artificiers, est avec nous dans ce studio pour en parler.
Et en guise de préambule, vous avez choisi de nous parler d'un des plus célèbres feux de l'histoire, célèbre parce qu'il a mal tourné.
Ah oui, alors ça c'est un peu le contre-exemple si vous voulez. C'était le soir du 30 mai 1770 à Paris, sur la place Louis XV, que nous appelons nous aujourd'hui la place de la Concorde, un feu d'artifice qui a tourné à la catastrophe, et je vais vous proposer là, dans les instants qui viennent, de revivre tout de suite ce moment dramatique.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Ce n'est pas Jean-Éric Hougier qui va nous dire le contraire. Le feu d'artifice est une fête. Et chaque année, des centaines de milliers de personnes se réunissent autour du Trocadéro à Paris pour assister au grand feu d'artifice du 14 juillet, dont il est l'auteur, en l'occurrence. Ça ne nuit à la santé de personne, bien au contraire. Ça réjouit, ça met un peu de baume au cœur, ces extraordinaires spectacles. Sauf bagarre ou accident très rare, tout le monde rentre tranquillement chez lui après le fabuleux spectacle. C'est aussi que Paris est devenue une grande ville ouverte, dégagée, avec des artères efficaces, que les soirs de fête et de feux d'artifice notamment, un très important dispositif de sécurité est là, qui veille au grain dans l'ombre. Tout ça nous paraît normal. Et pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Il fut un temps où Paris était une ville trop dense, trop populeuse, une ville encombrée, mal conçue, anarchique. Imaginez cette ville avec des rues qui serpentaient, hein, qui étaient issues pour la plupart du Moyen-Âge, des rues bien trop étroites pour la population de cette capitale, avec des infrastructures dangereuses, notamment de grands fossés, je vais y revenir tout à l'heure, et puis une sécurité déficiente. Il y a près de 2 siècles et demi, le soir du 30 mai 1770, les Parisiens ont fait les frais de tout cela. Cette date, qui aurait dû s'inscrire dans les annales des réjouissances publiques et du bonheur de la fête, cette date figure à l'encre rouge sur le livre des catastrophes publiques. Beaucoup, beaucoup de morts ce soir-là et encore bien plus de blessés, vous allez voir. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Oh, par négligence, sans doute. Par inexpérience, évidemment, peut-être aussi par pure et simple incompétence. Et pourtant, c'est peu dire que la municipalité parisienne s'était donné du mal pour que la fête fût réussie. Le prévôt des marchands, c'était l'ancêtre de l'actuel maire de Paris, avec tout son conseil, on appelait ça ses échevins. Tout ce monde-là s'était donné du mal pour célébrer un grand mariage. Quand je dis un grand mariage, c'était un mariage royal. Quand vous voyez aujourd'hui ce qu'un mariage royal peut créer comme peut faire vendre comme papier, hein, je pense au mariage en Angleterre bien entendu, mais enfin dans n'importe quelle monarchie, c'est un événement national considérable. Imaginez ce que pouvait être un mariage royal dans la France de l'Ancien Régime, dans la première monarchie du monde. C'était tout à fait extraordinaire. On ne parlait que de ça pendant des mois. Le mariage en question est historique, puisqu'il est censé entériner le spectaculaire renversement d'alliance qui, des années plus tôt, avait vu la France rompre avec l'alliance prussienne pour rejoindre la plus grande puissance catholique de l'époque, qui était l'Autriche. C'est un complet retournement d'alliance. Faut pas oublier qu'en Autriche régnaient évidemment les Habsbourg, et que les Habsbourg étaient les ennemis héréditaires de nos rois de France. Donc, en choisissant, sur les conseils de Choiseul, de Madame de Pompadour, d'un certain nombre d'autres, en choisissant cette alliance autrichienne, Louis XV avait fait un pari politique considérable, et là, il s'agissait d'entériner cette alliance et de marier le dauphin, petit-fils de notre roi, avec la fille de l'impératrice d'Autriche de l'époque, de Marie-Thérèse. Cette fille, elle s'appelait Antonia, ou Antoine, comme on l'appelait là-bas à Vienne. C'est notre Marie-Antoinette, bien entendu. Le roi Louis XV a 60 ans à l'époque, il est donc le grand-père du dauphin, et il tient beaucoup à ce que cet événement soit célébré avec faste. Il a demandé à tous les acteurs possibles la plus grande solennité. Il y a des grandes solennités à la cour, bien entendu, vous imaginez les fêtes de Versailles, tout à fait extraordinaires. On a carrément fait construire, spécialement pour ce mariage de 1770, la grande salle de l'opéra de Versailles, puisque depuis que Louis XIV avait fait bâtir le château de Versailles, le château était resté sans grande salle de spectacle. Lorsqu'il y avait un grand mariage ou lorsqu'on voulait célébrer particulièrement le carnaval, on organisait ça dans la salle du manège, du côté des écuries, de l'autre côté de la place d'armes. Mais là, on a construit exprès un grand opéra. Et puis, bien entendu, on va donner des fêtes dans toutes les grandes villes de France et dans la première d'entre elles, à Paris. Le roi a insisté. Il s'est fait livrer les plans des festivités de Paris. Vous voyez donc qu'il y a une pression de la cour pour que les Parisiens fassent les choses en grand. Alors, on a organisé une grande foire commerciale sur tous les boulevards au nord de Paris, qui étaient les anciens remparts que Louis XIV avait transformés en boulevard. Ça attire déjà un monde considérable. On organise toutes sortes de réjouissances, des fontaines qui distribuent du vin, vous savez, des distributions de pain aux pauvres. On distribue même, on jette des pièces pour la population qui se trouve là. On organise un grand bal populaire dans le bas des Champs-Élysées, et puis des joutes aquatiques sur la Seine, à la manière de ce qui se fait à Venise et dans quelques villes d'Italie, vous savez, ou du sud de la France, du reste. Bref, un rassemblement absolument considérable. On attendait environ 100 000 personnes. Ce sont 500 000 personnes qui sont venues. Or, et c'est le clou des réjouissances, de très grandes illuminations précédées par le fameux feu d'artifice ont été prévues sur la nouvelle grande place parisienne de l'époque. Cette place qui s'appelle donc à l'époque place Louis XV et qui est devenue bien plus tard sous Louis-Philippe la place de la Concorde. Alors bien sûr, il y a un service d'ordre pour s'occuper de tout ça. Vous avez 280 gardes municipaux quand même autour de cette place où coulent des fontaines de vin, où on distribue des vivres. Il faut imaginer l'affluence que tout ça crée. Cette garde prévôtale, est, on peut dire qu'elle est assez mal formée. Ce sont des gens qui d'habitude sont là plutôt pour assurer l'ordre dans les rues, vous voyez, qui font des patrouilles le soir, qui luttent contre les mendiants, parce que Dieu sait qu'il y en a des mendiants à l'époque. Alors on les chasse d'un quartier, ils vont s'asseoir un peu plus loin. Ce ne sont pas de vrais agents de sécurité comme nous en avons nous aujourd'hui. C'est très important d'en être conscient. À la tombée de la nuit, la foule se rue donc sur cette place où un gigantesque, mais quand je dis gigantesque, imaginez un véritable château de toile peinte, un temple de l'hymen absolument extraordinaire, temple de l'amour si vous voulez, a été dressé pour la circonstance. Alors attention, avec des toiles peintes, tout ça tenu ensemble par du goudron, vous imaginez comme ça peut flamber. Entre parenthèses, pour un jour de feu d'artifice, on a connu mieux évidemment. Et il faut savoir que ni le roi ni le dauphin n'ont prévu d'assister à la fête. Le roi se trouve chez Madame du Barry ce soir-là, sur la terrasse de Bellevue, d'où l'on domine complètement Paris, donc il se dit qu'il verra beaucoup mieux le feu d'artifice tranquillement chez Madame du Barry. Quant au dauphin, il n'est pas rentré de la chasse. Ça commence bien pour la pauvre petite dauphine. Son mari se révèle meilleur chasseur que toute autre chose. Quant à Marie-Antoinette, c'est une petite, faut imaginer, une jeune gamine à la peine 17 ans, donc elle a évidemment envie de les voir, ces festivités, mais on lui a dit, madame, c'est un peu dangereux, évidemment. Elle est mariée depuis quelques jours. C'est un peu dangereux de vous rendre comme ça directement au feu d'artifice. On vous emmènera voir les illuminations par la suite. Et donc, un carrosse est parti de Versailles pour l'emmener jusqu'à Paris. Malheureusement, ce qui devait être un extraordinaire spectacle et ce qui devait être la grande réjouissance de l'arrivée en France de Marie-Antoinette va tourner au désastre et vous ne pouvez pas empêcher les mauvaises langues d'y voir d'emblée un très mauvais augure.
On écoutait Mozart sur Europe 1 avec l'enlèvement au Serail.
Europe 1, 14h, 15h.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Nous sommes cet après-midi au cœur de l'histoire des feux d'artifice avec vous, Franck Ferrand, et c'est la suite de votre récit.
Oui, alors notre dauphine, la toute jeune Marie-Antoinette, toute excitée, elle bat des mains dans la voiture. Vous imaginez, on lui a mis un gros carrosse, et puis devant, il y a un carrosse de police, et puis tout autour des cavaliers, bien entendu, il y a un service d'ordre alors elle, autour d'elle, vraiment très important. Elle est toute heureuse parce qu'elle s'approche de Paris, on est passé au pont de Sèvres, on est arrivé, on arrive dans cette capitale où on voit de plus en plus de monde, et puis les gens reconnaissent, même si c'est une voiture que nous appellerions-nous banalisée, les gens reconnaissent la voiture de la dauphine et tout le monde crie « Vive la dauphine !» Enfin, tout va très bien, elle est très heureuse, très excitée de voir ce qui va se passer, et elle arrive bientôt aux abords de cette place Louis XV. Elle n'est plus qu'à quelques centaines de nos mètres actuels. Bon, c'est vraiment... Elle est au bord du grand plaisir. Alors, ce qu'il faut vous dire quand même, c'est que cette place Louis XV, elle n'est pas du tout comme est notre actuelle place de la Concorde. Depuis, tout ça a beaucoup changé. Certes, quand vous regardez du côté, comment dire, quand vous êtes dos à la Seine et que vous regardez du côté de la Madeleine, vous avez bien, à droite et à gauche de la rue Royale, ces extraordinaires architectures de Gabriel qui sont aujourd'hui l'hôtel Crillon d'un côté et l'hôtel de la Marine de l'autre. Bon, ça, incontestablement. Le garde-meuble national, royal à l'époque. Mais tout le reste est très différent. D'abord, pour tout vous dire, alors les Champs-Élysées, bon, c'est une espèce d'avenue champêtre au milieu des bois, si vous voulez, hein, avec des abords qui, du reste, sont pleins de fondrières. C'est un endroit totalement sombre. C'est comme si, c'est quasiment comme si vous aviez la forêt de ce côté-là. Bon, de l'autre côté, quand vous êtes du côté de la Seine, vous n'avez pas le pont de la Concorde. Il n'existe pas. À l'époque, on traverse la Seine grâce à un bac, mais il n'y a pas de pont à cet endroit. Donc, il n'y a aucun moyen pour une foule qui serait dans un moment de panique, aucun moyen de sortir par ce pont-là. Quand vous tournez de l'autre côté, du côté du jardin des Tuileries, vous avez au centre l'entrée du jardin des Tuileries. Il y avait à l'époque ce qu'on appelle le pont tournant. Sauf que, évidemment, pour protéger les Tuileries, résidence royale de la foule qui est en train de se masser sur la place Louis XV, on a ouvert le pont tournant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas circuler dessus. Il n'est pas en fonction. Et puis, du côté de la Seine, alors c'est vrai que là, il y a les berges de la Seine. On peut dire qu'au moins les gens peuvent s'en aller par là. Ben oui, mais sauf que il y a beaucoup de bourgeois parisiens qui sont venus en fiacre. Et il y a une espèce d'embouteillage de fiacre. Tout ça s'est entassé sur les berges, ce qui fait que c'est un barrage total. Et puis, de l'autre côté, devant la façade de ce qui deviendra l'hôtel de la Marine, justement, vous avez aujourd'hui la rue de Rivoli, hein, cette immense artère parisienne. Mais elle n'existe pas, la rue de Rivoli. Elle ne sera créée que sous le Premier Empire, sous Napoléon Ier. À l'époque, il y a là les jardins des Tuileries qui se prolongent, hein, jusqu'assez haut, du reste, jusqu'assez au nord. Donc, on ne peut pas passer non plus là. Finalement, la seule issue, je ne sais pas si vous imaginez la catastrophe de l'histoire, la seule issue, c'est la rue Royale. Mais au bout de la rue Royale, vous n'avez pas, comme actuellement, la place de la Madeleine avec cette espèce de temple grec qu'est l'église de la Madeleine. À l'époque, vous avez le chantier de l'église, puisqu'on est en train, depuis 1763, d'édifier là l'église de la Madeleine. Donc, c'est une espèce de grand chantier. Et la foule ne peut pas vraiment... On ne peut pas dire que ce soit un véritable exutoire. Ça n'est pas vraiment un dégueuloir, comme auraient dit les anciens Romains pour parler de l'évacuation de leur monument. Donc, on est bien dans un espace confiné et il faut espérer que tout se passe bien. Alors, la dauphine, elle, dans sa voiture, ne se doute pas. Pour l'instant, tout va bien. Elle est toute heureuse. Il faut quand même vous dire que, pour elle, cette réjouissance parisienne est importante. Ça va lui permettre de souffler un peu, si je puis dire. Parce que, depuis près de 2 ans maintenant, elle sait qu'elle va devenir l'épouse du dauphin de France. C'est pas une bagatelle. Et elle a été littéralement formée à ça. On lui a donné un précepteur français, l'abbé de Vermont. On l'a fait coiffer par un coiffeur français, l'Arseneur. On l'a vêtue à la mode de Versailles pour qu'elle s'habitue. On lui a appris à faire la grande révérence de course qu'on ne fait pas à Vienne, mais qu'on fait évidemment à Versailles plusieurs fois par jour, dès qu'on croise le roi, tout simplement. Donc, elle a subi toute cette préparation et surtout sa mère a fait porter sur les frêles épaules de cette gamine une sorte de charge impossible. Elle lui a dit, vous allez être non seulement la représentante de l'Autriche en France, mais vous allez être sur place notre agent et vous allez être l'incarnation même de la réussite d'une alliance franco-autrichienne dont le moins qu'on puisse dire après les désastres de la guerre de 7 ans est qu'elle n'avait pas donné de grands résultats. Donc pour Marie-Antoinette, tout ça est très stressant. intéressant. Et puis alors, il faut imaginer ce voyage. Dans le film, entre nous soit dit, à mon avis, assez ridicule de Sofia Coppola, on voyait Marie-Antoinette arriver toute seule. Hein, dans deux, il y avait deux voitures. Il y en avait 47 en réalité. Elle est arrivée avec des centaines, une suite composée de centaines de personnes. Elle est arrivée dans 47 voitures. Et elle a été acclamée dans toutes les villes de l'Empire, bien entendu, jusqu'à la frontière. Et puis à partir de la frontière, dans toutes les villes françaises, avec des fêtes, des réjouissances et déjà des feux d'artifice du reste, puisque le feu d'artifice fait partie intégrante de la fête au XVIIIe siècle, comme il le fait du reste aujourd'hui. Nous, les feux d'artifice font partie de notre vie festive et populaire. Marie-Antoinette a donc été constamment sous pression, elle est sous les regards de tout le monde, et lorsqu'elle arrive à Compiègne, puisque la rencontre va avoir lieu à Compiègne, le 14 mai 1770, alors il y a eu le passage à Strasbourg, vous savez, où on l'a fait se dévêtir entièrement, puisqu'il ne faut pas qu'elle apporte avec elle quoi que ce soit de l'autrichienne. Elle devient française, elle se doit au peuple de France, etc. Donc tout ça, tout traumatisant, si je puis dire. Et la rencontre, alors rencontre dans la forêt de Compiègne, elle descend de voiture, elle voit le roi, qui est magnifique, le roi Louis XV, hein, le plus bel homme du royaume, qui porte très beau, qui l'accueille à bras ouverts, elle l'appellera beau papa ou bon papa, et évidemment il sera très, très bon avec cette petite fille d'adoption. Mais elle découvre aussi son mari, qu'on appelait Berry Dauphin, ou Gros Berry, qui était évidemment pas... Alors bon, il était très élancé quand même, heureusement pour lui, mais il a toujours l'air un peu perdu, le futur Louis XVI. Il ne sait pas du tout comment s'y prendre avec les demoiselles, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est extrêmement timide en face de sa femme, et elle comprend très vite que la vie conjugale risque de ne pas être extrêmement amusante. Alors je vous passe tous les détails, les cérémonies du mariage, cérémonies religieuses, cérémonies civiles, évidemment, très importantes, avec des signatures de contrats considérable et qui engage l'Europe entière, si je puis dire. Mais elle se rend compte que son mari n'a qu'une idée, le jeune dauphin n'a qu'une idée, c'est la fuir, vous imaginez. Alors, il l'adore, évidemment. Je pense qu'elle serait même surprise de voir à quel point il s'est littéralement enflammé pour sa jeune épouse. Mais il l'adore de loin, si je puis dire, et il passe son temps à la chasse. Ce qui fait qu'elle s'ennuie, qu'elle commence à regretter Schönbrunn, qu'elle trouve cette cour de France extrêmement figée, extrêmement peu accueillante, en vérité. Tout le monde est là, qui la scrute. Faut imaginer ce que c'était que la cour de Versailles, hein, quand même. C'est l'endroit le plus stressant de la planète à l'époque, hein. Peut-être avec la cour de Chine, si vous voulez, mais c'est extrêmement dur. Et alors, il y a des réjouissances, mais ce sont des réjouissances très protocolaires, très officielles, extrêmement pénibles. Et là, pour une fois, on l'emmène à Paris. Elle va voir le bon peuple, assister à des illuminations. Tout va bien. Et malheureusement, quand on s'approche de cette place Louis XV, la rumeur commence à arriver. On court vers la voiture, on dit « Madame, madame, il y a eu un accident. » Quel accident ? Une bousculade, il y a beaucoup de victimes. Mais que se passe-t-il ? Marie-Antoinette veut en savoir davantage, sauf qu'elle n'entend même pas ce qu'on lui dit, puisqu'au-dessus de sa tête, c'est encore le bouquet final qui crépite.
On écoutait Mozart avec la symphonie numéro 25, Franck.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Avec les feux d'artifice à l'honneur cet après-midi, c'est la suite et fin de votre récit, Franck.
Et oui, donc nous sommes en ce mois de mai, le 30 mai 1770. On est en train de célébrer à Paris le mariage du petit-fils du roi, le futur Louis XVI, avec l'archiduchesse Marie-Antoinette, la dauphine. Et puis, les choses ont mal tourné. Alors que s'est-il passé? En fait, il y a une fusée qui est retombée comme ça pouvait arriver. Vous savez, les feux d'artifice étaient beaucoup moins perfectionnés qu'aujourd'hui. Elle est retombée en flammes et comme par hasard, elle est tombée sur le fameux bastion dont je vous parlais tout à l'heure, qu'elle a enflammé, et ça a créé en soi, c'était pas très dangereux, parce que ça avait été assez bien prévu finalement, mais ça va créer un mouvement de foule considérable. La foule crie, elle s'affole, on commence à se taper dessus, vous savez comment ça se passe dans ces moments-là, et la foule se dirige, je vous l'ai dit, vers la seule issue possible, qui est la rue Royale. Sauf que cette rue Royale, plus vous arrivez du chantier, plus vous approchez du chantier de la Madeleine, et plus elle est serrée, ça fait un véritable goulet d'étranglement, d'autant plus qu'il y a des voitures pompes qui arrivent pour essayer d'éteindre l'incendie en sens inverse, et donc ça crée un engorgement, les gens commencent à se monter les uns sur les autres, il y en a qui, se sentant étouffés, vont grimper sur les voitures, mais à force de monter sur les voitures et sur les chevaux, on fait écrouler les chevaux, les voitures voiture se renverse. Et alors là, les gens se trouvent écrasés sous la foule. Est-ce que ne comprend pas la foule qui, elle, est encore sur la place? C'est qu'il y a cette catastrophe, donc on continue à pousser. Vous savez, ce que, comme ça peut être bête, une foule en mouvement, évidemment. Hein. Les gens continuent à pousser sans se rendre compte et on continue à rire et à applaudir derrière. Et donc, là, il y a un véritable, on peut dire, un véritable écrasement. C'est terrible, hein, ce qui se passe. Alors, une panique, vous imaginez, sur place. On va quand même relever 132 morts. 132 morts. Et combien de blessés? C'est difficile à dire. On établit entre 1000 et 5000 blessés. Probablement, y en a-t-il eu un gros millier. En tout cas, ça c'est certain. Alors, on va bien sûr ouvrir une enquête au Châtelet de Paris. Hein. On mène une enquête pour savoir exactement quelles sont les responsabilités. Il faut les établir, ces responsabilités. Et voilà ce que dit l'arrêt. Que l'entièreté de la faute est redevable à l'impétuosité du peuple. Voilà, comme ça on est tranquille. Il n'y a pas de responsable. Circuler et il n'y a rien à voir. Tout de même, l'État va en tirer des conclusions puisqu'à partir de ce jour, c'est quand même important, toute la police, enfin toute l'organisation de la sécurité parisienne sera faite directement par l'État. Et ça, ça va durer jusqu'à nos jours, hein, puisque vous savez que, après tout, le premier maire de Paris n'a été élu qu'en 1977. Hein, c'était Jacques Chirac à l'époque. Bref, à l'époque, on dit c'est la faute à pas de chance, c'est une malédiction divine, c'est de mauvais augure pour le règne. Ça oui, pour la petite dauphine, c'est pas bien. D'ailleurs, la pauvre est complètement perturbée, évidemment. On l'emmène quand même voir les illuminations, elle pleure à chaudes larmes et elle ne dort pas de la nuit et le lendemain quand elle apprend le nombre des victimes, alors on va organiser toutes sortes de charités, mais le mal est fait. Marie-Antoinette est immédiatement assimilée au malheur. Et ça me fait penser à autre chose, ça me fait penser à un autre événement, c'est ce qui s'est passé le 17 mai 1896 au Kremlin à Moscou au moment du mariage, du couronnement de l'empereur Nicolas II avec l'impératrice Alexandra Fiodorovna. Il s'est passé un peu la même chose, il y a eu également une énorme bousculade, sauf que là-bas, ça avait fait 4000 morts, que c'était le soir même du couronnement de l'empereur et qu'on y a vu le mauvais signe, ce règne serait malheureux. On sait comment il s'est terminé, ce règne. Il s'est terminé par la révolution russe de 1917, de même que le règne de Louis XVI et de Marie-Antoinette s'est terminé, vous le savez bien, par la révolution française et par l'exécution de l'un et de l'autre.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi des feux d'artifice avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Jean-Éric Ougier, directeur artistique et artificier.
Eh oui, oh, non seulement artificier, mais on peut dire le grand maître des feux d'artifice dans l'Hexagone. Bonjour Jean-Éric Ougier.
Bonjour.
Alors comme vous me disiez pendant la publicité, ben dites donc, quelle introduction, merci. Vous...
Ah oui, ça je dois
vous
dire.
Vous allez me porter la poisse avec votre horreur. C'est vrai que ce feu d'artifice, d'ailleurs c'est pas le feu d'artifice lui-même, quoi qu'en plus il était raté.
Il était raté. Et ça arrivait souvent.
Ça arrivait assez souvent. Oui, c'était assez fréquent parce que les techniques n'étaient pas très au point, et voilà, évidemment.
Et puis les artificiers n'arrivaient pas à s'entendre entre eux. On va en parler du reste.
Alors,
c'est très intéressant.
C'est les Ruggieri qui avaient organisé.
Alors,
cette
partie,
soirée-là.
Parce qu'il y avait toujours plusieurs artificiers. Il n'y avait pas qu'un seul artificier capable de tout faire quand il s'agissait d'occasions comme celle-ci, qui était énorme et gigantesque. D'abord, il y avait toujours deux feux d'artifice. Mm-hmm. Il y en avait un à Versailles et un à Paris. Donc Marie-Antoinette a quand même vu
celui de Versailles.
De Versailles qui a été...
Elle l'a vu depuis les fenêtres de la Grande Galerie,
oui.
D'ailleurs.
Et alors, en plus, on les grillageait parce que quand même, pour vous dire qu'on était à peu près quand même conscient du danger que ça représentait, on grillageait les fenêtres par lesquelles les rois pouvaient regarder cela, de façon à ce qu'ils ne prennent pas de projectiles sur eux. C'est vous dire quand même qu'on n'était pas tout à fait sûr de la technologie à l'époque.
Ouais. Alors tout ça a bien changé. Hein. Rassurons tout de suite nos auditeurs, on ne risque plus rien dans un feu d'artifice.
Alors, les spectateurs en principe ne risquent plus rien. Nous, en tant qu'artificiers, on est quand même au cœur du débat, bien évidemment. On est au centre du feu. C'est ce qui en fait aussi l'intérêt, notamment dans d'autres cultures, comme en Espagne, où les Espagnols, par exemple, adorent être au milieu du feu, ça fait partie de...
Mais alors justement, quelles sont les racines culturelles du feu d'artifice? Vous dites c'est l'Espagne, c'est...
Non, alors elles sont multiples, on trouve à plusieurs endroits. Là, évidemment, l'origine des origines, c'est la Chine.
Oui,
bien
sûr.
C'est bien. Bon, Marco Polo revient avec la poudre, mais en même temps, il y a le moine Schwarz en ce qui est maintenant l'Allemagne, mais à l'époque, ce n'était pas l'Allemagne qui la découvre en même temps, en tout cas qui met au point le procédé du canon. Donc tout ça sert d'abord à la guerre. Il faut bien voir que le feu d'artifice s'inscrit dans une logique de guerre. Toute la terminologie du feu d'artifice vient en partie du monde de la guerre, mais pas que. Il y a aussi immédiatement le divertissement qui s'en mêle, mais on confie néanmoins à des gens de guerre le soin de faire la fête. Donc les premières fêtes qu'on organise, c'est pour célébrer des grandes victoires.
Oui, voilà, c'est ça. Il y a généralement un Te Deum, une messe d'action de grâce pour remercier Dieu d'avoir donné la victoire. Et puis pour la population et pour bien marquer le coup, un grand feu d'artifice. Alors, les feux d'artifice remontent sous leur dimension festive et en Europe, à peu près à quelle époque? Les plus anciens, vous diriez?
Alors en Europe, bizarrement, j'allais dire, parce qu'on croit que c'est une tradition justement très latine, voire française, et maintenant les premiers qui apparaissent en tant que tels, c'est en Angleterre. C'est pour la reine Elisabeth Ier, qui adore ça, et qui en fait faire beaucoup à partir de 1572. Et ensuite, Sully, en France, organise le premier feu d'artifice à Fontainebleau en 1606 à peu près.
Donc c'est ça, vraiment donc au tout début du XVIIe.
Tout début du XVIIe. Et le grand organisateur, évidemment, c'est Louis XIV. C'est lui qui comprend instantanément l'outil merveilleux de communication, parce qu'il s'agit bien de ça, que va être le feu d'artifice. Parce que effectivement, quoi de plus rêvé pour imposer le côté droit divin que cette espèce de magie, parce qu'il faut remettre les choses en place. Le peuple ne sait pas lire, ne comprend pas tout. Donc, on continue à mettre le feu en avant. Le feu a toujours servi les puissants. Le feu est toujours au centre de la vie de l'humanité. Depuis le début, ça sert à chauffer, etc., à se défendre. Et on crée après des feux de joie. Il faut bien remettre le feu d'artifice.
Oui, il y avait tous les feux de la Saint-Jean, etc.
Les feux de la Saint-Jean, les feux des moissons.
Voilà.
Les feux
Il y a eu les bûchers aussi dans un genre moins sympathique, évidemment.
Oui, parce que c'est aussi le feu purificateur. Mais on le retrouve dans plein de traditions. Par exemple, si on reprend les Fayas de Valencia, ça se passe le 19 mars, jour de la fête de la Saint-Joseph, comme par hasard, patron des gens qui travaillent le bois, on détruisait le 19 mars, qui correspond aussi au printemps, tout ce qui n'avait pas fonctionné l'année d'avant, tout ce qui n'avait pas été bien construit, on le détruisait sur la place du village à travers un feu de joie pour redonner la possibilité de renaître. C'est le principe de la bûche de Noël aussi. Donc le feu est au cœur de toutes les festivités de l'humain.
Toute une longue tradition festive du feu. Mais alors là, bien entendu, ce feu-là, on le domestique, on arrive à le travailler, on lui fait faire on lui fait même dessiner des lettres de feu dans le ciel. En fait, tout ça est tout à fait extraordinaire. Et Louis XIV, nous disiez-vous, comprend à quel point ça peut être un instrument tout simplement de propagande et de rayonnement.
Alors il le comprend tout de suite. À cause de Fouquet, ou grâce à Fouquet, bien évidemment.
La fameuse nuit du 17 août 1661.
Ça, c'est sûr que la fête de Vaux, c'est quelque chose dans son esprit. Il comprend beaucoup de choses, mais il comprend aussi que le feu d'artifice est la fête, parce que c'est intimement lié, est un merveilleux moyen de fédérer autour de lui des gens qui sont assez sots, finalement, et qui ne voient que le paraître. On sait bien que l'humanité est faite ainsi, que ça continue comme ça. Mais voilà. Et donc, j'ai une petite phrase de lui qu'on retrouve.
Ah,
moi,
oui.
Je l'adore, parce qu'on le retrouve dans ses mémoires. Il faut savoir que Louis XIV est très bien organisé. C'est pas à vous que je vais apprendre qu'il met Charles Perrault, le fameux Charles Perrault des contes de Perrault, à la tête de la petite académie, qui n'est ni plus ni moins que sa cellule de communication.
De propagande. C'est Colbert qui organise tout ça.
Et dans les mémoires dites de Louis XIV, qui sont censées être écrites par lui-même, mais qu'il a adoubées, il dit la chose suivante.
Que nous soit dit, c'est une toute petite parenthèse, mais moi je suis convaincu qu'il les a écrits lui-même. Il y a un très grand nombre d'arguments en faveur de cette thèse. Je pense que Louis XIV a vraiment dicté ces mémoires-là, à Toussaint-Rose en l'occurrence, mais il ne les a pas écrits de sa main, mais il les a dictés.
Sans doute, de toute façon, on retrouve intégralement. Oui, mais tout à fait, de toute façon, peu importe, on retrouve exactement. Mais ça m'amuse beaucoup parce que c'est presque une bible de la fête que les puissants actuels continuent à exploiter. Quand il dit « les peuples se plaisent au spectacle où au fond, on a toujours pour but de leur plaire ». Ils sont ravis de voir que nous aimons ce qu'ils aiment. Par là, nous tenons leurs esprits et leurs cœurs, quelquefois plus fortement que par les récompenses et les bienfaits.
C'est incroyable.
Et à l'égard des étrangers, dans un état qu'ils voient florissant d'ailleurs et bien réglé, ce qui se consume en ces dépenses qui peuvent passer pour superflues fait sur eux une impression très avantageuse de magnificence, de puissance, de richesse et de grandeur.
Ah, tout est dit.
Tout est dit. Tout est absolument dit. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est le schéma sur lequel tous les dirigeants vont aller jusqu'en 1957, grosso modo. On s'aperçoit que même Napoléon, même la Restauration, il y aura des petites interruptions, mais même la Révolution.
Vous dites 1957 parce que là, il y a une inflexion. On va y venir dans un instant. On va maintenant entrer, si vous voulez, dans la technique et voir quelle a été l'évolution des feux d'artifice dans leur technique, dans leur apparence, dans leur organisation aussi, qui joue un rôle très important. Vous parliez tout à l'heure de l'Angleterre, berceau du feu d'artifice moderne. Je vous propose d'écouter quelques notes de Handel et de ses fireworks extraordinaires. «
On écoutait Handel sur Europe 1 avec la réjouissance.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire des feux d'artifice cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Jean-Éric Ougier, directeur artistique et artificier.
Ça crépite, ça, c'est tout à fait extraordinaire. Il ne faut pas oublier que dans un feu d'artifice, il y a aussi la partie sonore, Jean-Éric Ougier. Ça fait partie du plaisir.
Ça fait partie du plaisir. Le feu d'artifice a cette spécificité, c'est de conquérir plusieurs espaces à la fois. La lumière, la couleur, le volume, la mise en valeur d'un autre espace et évidemment le bruit.
Le reflet évidemment de la lumière et des couleurs sur le paysage ou sur les architectures. Enfin, voilà. Il y a toute cette dimension-là. Sur l'eau aussi.
Sur l'eau, c'est là où on rejoint le génie de Lenôtre associé à celui de Louis XIV, parce qu'il faut absolument pas les dissocier. Les deux étaient d'ailleurs du reste amis et se respectaient énormément. Et effectivement, le nôtre, Louis XIV et tous les autres architectes, parce qu'on met toujours le nôtre dans son habit de jardinier, ce qui est complètement réducteur, puisque c'était avant tout un ingénieur. Aujourd'hui, on dirait que c'était un ingénieur. Ils ont absolument conçu tous les parcs qu'ils ont réalisés royaux pour que ce soit à la fois un lieu de fête, un lieu qui reflète, qui soit finalement d'abord le premier bâti qu'on retrouvera ensuite à l'intérieur dans les châteaux. Ce n'est jamais que la première conception de la royauté, on la retrouve dans les jardins et notamment pour les fêtes.
Alors les feux d'artifice du XVIIe et même du début du XVIIIe siècle étaient très différents de ceux que nous connaissons. D'abord, il faut peut-être qu'on distingue, je l'ai fait rapidement tout à l'heure dans mon récit, les illuminations et puis le feu d'artifice en tant que tel. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des éléments fixes qu'on embrase, et d'un autre, vous envoyez des fusées dans le ciel, hein, si je puis dire.
Voilà, tout à fait. Alors d'abord, premièrement, la diversité des produits n'est pas telle qu'on peut faire un spectacle qui dure très longtemps. Deuxièmement, il faut remettre tout dans le contexte. L'époque baroque, c'est l'époque des histoires, au sens je raconte une histoire, ce que vous avez fort bien fait tout à l'heure.
Nous sommes très baroques ici.
Voilà, on est très baroques. Et des surprises. Ça, c'est très important. Si on ne comprend pas l'histoire des surprises, on ne comprend pas l'époque baroque. C'est-à-dire que même le jardin, quand Louis XIV fait une fête, est une succession de surprises.
Et les bosquets notamment.
Voilà, avec les bosquets, chaque détour d'allée, on doit être surpris.
Et quand il y a des salles de verdure, des théâtres de verdure, etc., qu'on découvre peu à peu au détour des allées, etc. Et tout ça est illuminé, animé.
Et tout ça, la fête se compose. On sait que Louis XIV aimait les choses bien rangées, bien classifiées. Donc il codifie tout cela. Et effectivement, la fête est composée du bal, d'abord du banquet, très important, faut toujours manger en France. Du banquet, du bal, du théâtre, de la danse. Et puis on arrive à un endroit central, généralement le rondeau, enfin qui va devenir la tonne, puis ensuite le bassin d'Apollon, ou le futur bassin de Neptune. Et là, on fait un grand spectacle qui raconte une histoire. Et les illuminations sont là parce que d'abord, c'est la continuité de la façon dont on a de célébrer la fête en France, on illumine avec des torches. Donc ce sont généralement des pots en terre ou en métal qu'on remplit de graisse avec et on allume tout ça. Mais il y en a des milliers et des milliers. On n'imagine pas en termes de scénographie ce que ça représente. L'illumination de 1674, qui est la grande illumination, par exemple, c'est en 3 ou 4 minutes. Tout le grand canal ainsi que le grand parterre s'illumine. Ce sont des centaines.
S'embrase
en quelques minutes.
Il valait mieux qu'il fasse pas trop humide ce jour-là, parce que sinon ça devait faire une fumée considérable, une vapeur considérable.
Ça en faisait forcément, puis ça devait sortir très mauvais, surtout parce que c'était de la graisse animale généralement. Donc c'était extraordinaire, mais tout s'embrase et ça permet de prendre le temps de regarder, parce qu'il n'y a pas la télévision, il n'y a pas le cinéma, et c'est déjà magique. Et le roi est un magicien. C'est bien ça qu'il faut voir. Il est d'abord issu de droit divin, mais en plus c'est un magicien.
Alors là, on va entrer dans des aspects un peu techniques. D'abord, on va parler des couleurs peut-être. Il faut dire que pendant très longtemps, les feux d'artifice sont blancs, tout simplement. Enfin, ils sont couleur de feu.
Ils sont plutôt or, parce que le seul métal qu'on maîtrise à peu près bien, j'insiste bien sur le à peu près, c'est le fer. Sauf que l'ennemi du fer, comme de notre peau, c'est l'oxygène. Donc ça s'oxyde très rapidement. Et donc les préparations de feux d'artifice se font quelques jours avant, voire deux jours, voire la veille, voire le matin. Ce qui explique du reste un certain nombre d'accidents.
Et oui, parce que tout ça est fait dans la précipitation.
La précipitation, d'une part. Et puis l'oxydation arrive parfois très vite, parce que par exemple Versailles est un endroit extrêmement humide. C'est un ancien marécage. Donc il peut y avoir des explosions. Donc effectivement, il y a peu de couleurs. Donc on compose de la manière suivante. Les illuminations sont là pour apporter de la couleur, et on met dans des verres de couleur et on construit des énormes décors comme vous l'avez dit tout à l'heure, en papier peint. Mais ça peut aller bien au-delà. C'est du stuc, c'est du plâtre, c'est du bois. Il y a même certains, en 1739, il y a un décor qui va rester un an sur le Grand Parterre tellement il était beau. C'est-à-dire qu'on imagine des colonnades avec des obélisques, des fontaines momentanées.
Pour la naissance du dauphin, oui.
Non, c'était pour le mariage de, avec l'infante d'Espagne.
Ah oui, d'accord. Le premier mariage du dauphin.
Voilà,
oui,
c'est ça. Absolument extraordinaire. Le décor va rester en place parce que c'est sublime. On fait appel aux plus grands architectes. Il faut voir que, même déjà sous Louis XIV, les décors de fête ne sont que les répétitions de ce que va devenir le bâti, puisque le château, rappelons-le, n'existe pas.
Et voilà.
Donc on commence à faire des salles de spectacle de, à l'extérieur, avec des treillages, des treillis, et qu'on retrouve du reste maintenant dans les bosquets. Hein.
Alors, ces fusées, c'est là que je parle de technique, c'est que moi je n'y connais pas grand-chose, bien entendu. Elles vont devenir colorées à partir de quel moment vers la...
Alors, au moment de la révolution industrielle, bien
oui,
évidemment.
C'est ça,
là,
oui.
C'est au moment... Alors, c'est ça qui est amusant, c'est que dans un premier temps, on est dans le cadre de l'alchimie, quasiment. C'est-à-dire que ce sont de petites fabriques, puis chacun garde bien ses secrets. Les artificiers se détestent, il faut le savoir.
Il y a une grosse concurrence.
Et non seulement ils se détestent, mais ils essayent même de détruire le travail des autres.
Ce sont des êtres de feu.
Oui, ils sont vraiment pas très sympathiques.
Ça n'a pas changé, d'après ce que, la grimace que je vous vois faire.
Non, pas du tout. Ah, c'est pas vrai. Non. Alors là, non, au contraire, ça se, mais justement, dans un premier temps, on a des secrets, c'est presque de la cuisine. Et puis avec l'industrialisation, évidemment, et ne parlons pas de la mondialisation, les raffineries se font, les produits, on devient dépendant des grands fabricants de produits chimiques. Et donc les premières expériences d'oxydoréduction qui nous amènent au rouge, au vert, etc. Voilà. Ça, c'est fin 19e. Voilà. Et à partir de là, toutes les couleurs, aujourd'hui, on a une palette de couleurs absolument extraordinaire.
Phénoménal. Et alors, pour le type de fusée, on voit beaucoup sur les gravures d'Israël Sylvestre, par exemple, on voit des espèces de gerbes. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la fusée est incandescente dès son lancement et qu'elle n'explose pas dans le ciel. Est-ce qu'il y a eu une évolution des techniques de ce point de vue ?
Eh bien, pas tant que ça, figurez-vous. C'est assez amusant, c'est resté très artisanal. Alors évidemment, c'est tout à fait sécuritaire maintenant, parce qu'avec ce que vous avez raconté tout à l'heure, c'est très sécuritaire. On connaissait deux chose, c'était la bonne bombarde qu'on avait utilisée à la bataille de Crécy. On met de la poudre, on charge et ça explose. Alors ça faisait des gerbes qu'on appelle des potes à feu. C'est assez amusant. Il y a toute une terminologie assez rigolote.
Militaire, finalement.
Militaire et onirique, parce que il faut tout inventer. Hein. Quand le feu d'artifice commence, il faut tout inventer. Alors il y a des étoiles, des girandoles, des chandelles romaines. Ce sont des termes que l'on puise ici et là, soit dans le ciel, soit dans le mobilier qu'on connaît dans les châteaux, les girandoles. La girandola, c'est la plus grande fête qui a lieu au Fort Saint-Jean chaque année en Italie, ordonnée par le pape. Bon, voilà. Donc le matériel n'a pas tellement changé. Simplement, c'est les contenants et la sécurité. Donc il y a la fusée qui est autopropulsée, comme Ariane à Kourou. Et puis il y a le mortier qui n'est ni plus ni moins que le système du canon. Alors le système du canon marche à tous les coups. La fusée, c'est un peu plus compliqué. Oui. Et c'est celle qui fait les dessins sur les Sylvestres où on voit qu'elle part un peu dans tous les sens. Ce qui est drôle, c'est que le graveur et l'illustrateur
n'ont pas cherché à améliorer le.
Oui, et n'ont pas cherché à cacher la vérité. On voit que ça part dans tous les sens.
Alors tout ça est tiré à la main, bien entendu. Hein. Il n'y a pas du tout de système de commande centralisée, si je puis dire.
Tout cela est tiré à la main et en théorie scénographié, mais ça se passe assez mal généralement, encore une fois, parce qu'aucun artificier, ce sont des petits ateliers, ne sont capables de faire un grand feu. Donc il faut qu'ils se mettent d'accord entre eux et généralement, on arrive à des trucs. J'ai juste une petite anecdote qui est assez marrante, qui est issue des mémoires de Perrault, qui dit « Comme la plupart des artificiers ont peu de cervelle, la plus grande difficulté est d'en trouver un capable de conduire tous les autres. » Veut bien dire. Et sur ça, parce qu'ils ne savent presque ni commander ni obéir. Donc voilà. Donc,
un peu des têtes brûlées quand même à l'époque.
Oui, à l'époque c'est la découverte. On est dans un moment de pionnier. On découvre. Et
le but du feu d'artifice, vous nous l'avez fait comprendre tout à l'heure, est d'éblouir, bien entendu. C'est pourquoi on va l'utiliser notamment dans les grandes solennités d'État. En 1855, l'empereur Napoléon III reçoit la reine Victoria avec le prince consort Albert. C'est une grande fête un peu partout en France. Et puis surtout à Versailles, on a reconstitué les fameux décors dont vous parliez, hein, qui étaient ceux du mariage du premier dauphin. On illumine un château qui est le répondant même du château de Versailles et on tire un feu d'artifice à tout casser, si je puis dire. On dit que c'est le plus beau du Second Empire, ça devait être quelque chose de très extraordinaire. Eh bien, 100 ans plus tard, lorsque le président René Coty reçoit la descendante de Victoria, la toute jeune reine Elisabeth II, on donne encore un très grand feu d'artifice.
Alors oui, on donne du reste. Hein, d'abord, c'est le dernier de cette forme-là, on peut dire, parce que la France décide d'accueillir Elisabeth II d'une manière absolument incroyable.
Ah oui.
On la met sur un bateau et ce bateau remonte la Seine. Alors ça, c'est quelque chose qui est totalement inimaginable aujourd'hui. Tous les artisans, tous les gens de Paris occupent les quais de chaque côté et reconstituent d'une part l'histoire de France et l'histoire de l'Angleterre. Donc ce sont des décors. J'insiste bien sur ces décors, on n'en a pas beaucoup parlé. Ce sont eux qui soutiennent pendant tout l'Ancien Régime les feux d'artifice. On raconte une histoire à travers le décor sur lequel on marque vive le roi et tout ce qu'on veut. Beaucoup de vertus, la fidélité, la prouesse.
Oui, toute une allégorie.
C'est toute une allégorie. Mais là, Elisabeth II remonte donc la Seine et sur chaque pont de Paris, donc aucun pont n'est utilisé à la circulation, sur chaque pont de Paris, il y a un feu d'artifice au fur et à mesure qu'elle remonte. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir... Mon père était journaliste à l'époque, il a filmé ce feu d'artifice. Je pense que cela n'est pas tout à fait étranger à ma,
oui, ça vous
à
a,
ma passion.
Ça vous a marqué, hein, ça,
ah
c'est
oui,
formidable.
Parce que je l'ai vu dès mon plus jeune âge, je suis né en 57, et dès qu'il a pu me passer ce film, il me l'a montré, bien évidemment.
Ah oui, ça c'est assez frappant. On peut dire que depuis 57, il y a eu donc un changement, en quelque sorte aussi dans la technologie. Il y a eu les sons et lumières, il ne faut pas oublier, hein, qui sont nés à peu près à ce moment-là, un tout petit peu avant, et donc qui vont développé, il y a toutes les fêtes de nuit à
voilà.
Versailles.
Alors, à Versailles, il y a une vieille tradition qui est formidable.
Mm-hmm. Annecy, qui elle remonte au 19e,
Annecy,
oui.
Il y a une tradition
oui,
suite au rattachement
oui.
des Savoies à la France.
1860.
Napoléon III et l'impératrice Eugénie viennent à Annecy où les Annéciens, soi-disant spontanément, font des feux de joie sur tout le lac flottant avec des bateaux illuminés et un feu d'artifice. Et depuis ce jour-là, que ce soit à Versailles ou à Annecy, il y a chaque année soit la fête du lac, soit les fêtes de nuit. Et donc, on renoue, mais la technologie prend sa place.
Et depuis quelques années, pas mal d'années maintenant, il y a carrément des concours de pyrotechnie. C'est-à-dire que chaque pays, chaque équipe, chaque grand artificier présente sa création. Ce sont de vraies créations
voilà,
aujourd'hui.
On est dans une phase où on fait une petite révolution, nous aussi. Et les artificiers sont de plus en plus considérés, et à juste titre, par des artistes, parce qu'il faut ordonnancer ça de manière très chorégraphique. La technologie nous y aide, l'informatique, la lumière, le son, et toute autre projection d'image. Et effectivement, les nuits de feu de Chantilly ont été particulièrement célèbres en Europe. C'était, à mon avis, je ne dis pas ça parce que je l'ai dirigé artistiquement, mais c'était véritablement le plus beau festival d'art pyrotechnique. J'espère qu'il renaîtra de ses cendres tel phénix, c'est le cas de
Et alors, qu'est-ce qu'on va voir samedi? Qu'allons-nous voir samedi à Saint-Cloud?
Alors à Saint-Cloud, bien, on est exactement dans l'esprit 17e, 18e, parce que nous sommes d'abord en train de célébrer le nôtre avec son 400e anniversaire de la naissance et nous sommes dans un endroit qui a été conçu pour la fête, pour le spectacle. On est dans un théâtre presque antique avec un mur comme on peut l'imaginer en Grèce ou à Rome. Et là, on consacre un spectacle de plus d'une heure et demie uniquement à une seule et unique vedette, le feu d'artifice. Et on raconte aussi l'histoire des feux baroques.
Et j'allais dire, et en bon baroque que vous êtes, vous nous réservez quelques surprises, j'imagine.
Ah ben j'espère bien. Non, c'est-à-dire qu'on renoue à double titre, d'abord historiquement, parce que pendant 20 minutes, on raconte l'histoire et comment. Il faut bien que les gens comprennent pourquoi ils sont là. On aime le feu d'artifice, mais on ne se pose pas la question de savoir pourquoi. Il faut donc en rappeler les origines et ce pourquoi. Donc pendant 20 minutes, on va raconter ça. Et ensuite, on fait du feu baroque, mais actuel.
Le plus grand feu d'artifice d'Europe, c'est ce samedi, là, le 7, au domaine national de Saint-Cloud. Et ça s'appelle tout bêtement le grand feu.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
14h, 15h, Franck Ferrand.
C'est l'heure de notre nouveau rendez-vous aux origines. Et aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du film White House Down, vous nous parliez, Franck, des gardes du corps.
Oui, parce qu'on parle de gardes du corps et dans ce White House Down. Et le terme de garde du corps, on se dit, mais quand ça remonte, les gardes du corps? Alors on pense que c'est peut-être Napoléon. Non, 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 c'est beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Ça remonte au règne de Philippe Auguste, figurez-vous. On garde le corps du roi, n'est-ce pas? À partir de 1192, c'est une partie des sergents d'armes qui constituent les premiers gardes du corps. Alors, on va créer par la suite tout un ensemble de régiments, bien entendu. La célèbre garde écossaise, créée par le roi Charles VII en 1423. Charles VII a été très... Évidemment, il a été très échaudé pendant sa jeunesse. Hein. Il sait que sa vie est constamment en danger. C'est d'ailleurs lui qui va créer le corps des 24 gentilshommes qui sont constamment avec le roi. Ce qu'on appellerait aujourd'hui la protection rapprochée. On les appelle à l'époque les gardes de la Manche. Et ces gardes de la Manche, ils vont vraiment protéger le roi jusqu'à la Révolution, jusqu'en 1792, jusqu'à la chute de la monarchie. et ils seront d'ailleurs réinstitués par Louis XVIII en 1814. On ne les supprime que sous Louis-Philippe en 1830 parce qu'ils étaient définitivement attachés à l'image de la monarchie, bien entendu. Je vais vous parler de toutes les compagnies qui ont été créées par les rois successifs. Louis XI et François Ier, notamment, ont joué un grand rôle. Je voudrais juste consacrer la petite minute qui me reste encore à évoquer les fameux gorilles. Vous savez, ces quatre gardes du corps très spécifiques qui avaient été choisis par Malraux pour entourer le général de Gaulle dans la période très troublée où il subissait les attentats de l'OAS. Il y avait Roger Tessier, le boxeur, Henri Djouder, le kabyle, ancien combattant de la France libre, René Auvray, le parachutiste, qui a été remplacé en 63 par Raymond Sassia, le tireur d'élite, et puis bien sûr Paul Comiti, leur patron, qui était corse, bien entendu, hein, commando marine, résistant. C'est lui qui a fixé la règle de ces quatre mêmes gorilles, dont le dévouement, évidemment, devait être total et permanent. On peut dire que ces gorilles-là sont présents autour du chef d'État 24 heures sur 24. Tout ça a un peu évolué par la suite, notamment sous François Mitterrand, mais on arrive dans une histoire un peu trop récente pour qu'elle m'intéresse vraiment. Mais ça, c'est pour vous. Bonjour, Elena Mordant.
Bonjour, Franck. Pourquoi ça, c'est pour moi?
On fait sauter les fusées de feu d'artifice.
J'adore. C'est super pour une rentrée sereine. Parce que justement, on va en parler. Enfin, je vous ai trouvé un petit peu stressé là, ces derniers temps. Je me suis dit, je vais faire une émission pour Franck Ferrand. En fait, je la fais pour vous tous. L'objectif du jour, aborder la rentrée en forme et en sérénité. C'est la décision que nous avons prise ensemble avec les experts européens. On va vous donner les clés. Restez à l'écoute.
Merci beaucoup Elena, merci encore à Jean-Éric Ougier qu'on retrouvera samedi à Saint-Cloud et nous nous retrouvons nous demain Céline.
Avec plaisir Franck, à demain.
Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire.